Europe 1.
14h, 15h.
Clap. Laurie Choleva.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Si vous venez de nous retrouver, c'est parti pour Clap, votre rendez-vous cinéma et en ce jour de Noël. Avant toute chose, je vous souhaite un merveilleux Noël,
ah oui.
Où que vous soyez, en famille ou au travail. Voilà, tout le monde vous souhaite un joyeux Noël dans ce studio. Que ce Noël vous apporte plein de joie et de magie. Et en parlant de magie, évidemment, le cinéma nous en procure toujours beaucoup. Donc voici le programme. Dans la première partie de Clap, nous parlerons des films cultes de Noël, les classiques indémodables comme Le Père Noël est une ordure ou encore La vie est belle de Frank Capra. À 14h20, je recevrai la pétillante, sympathique et surtout talentueuse Alexandra Lamy pour parler de la comédie familiale Le Test, où elle joue aux côtés de Philippe Catherine. Enfin, en compagnie de mes trois elfes de Noël que vous venez d'entendre, Franck Vallière, Sophie Grèche et Victor Bonnefoy.
Oh, oh, oh. Des elfes, on est passé de complice, chevalier, main droite, main gauche à elfes.
Eh oui, c'est la magie de Noël, je vous parlerai des films à voir au cinéma en ce moment. Voilà le programme de votre clap qui commence maintenant.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell swing.
Une part de bûche dans la main, blottie sous un plaid, installée confortablement sur le canapé avec le sapin qui scintille dans un coin du salon. Franchement, y a-t-il quelque chose de mieux qu'un bon film de Noël à regarder à Noël?
Non,
non.
Voilà,
non.
Merci. Ça m'arrange cette réponse.
Hein, oui, 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 tout à fait. Mais elle apportait une réponse logique, j'ai envie de dire.
Et oui, la réponse est non, car si on aime tant Noël, c'est bien sûr pour les cadeaux, les festins en famille ou entre amis, mais aussi pour nos films de Noël. Alors dans Clap, on a voulu passer en revue les films cultes de Noël. Ils sont tellement nombreux qu'il a fallu faire un choix. Et pour m'aider donc dans ce choix, Sophie Grèche, Victor Bonnefoy et Franck Vallière sont à mes côtés. Alors quand on pense film de Noël, on pense forcément à nos films cultes français. Les Bronzés font du ski, qui repassent chaque année au moment des fêtes de Noël. Ça marche à tous les coups. On va pas se lancer quand même dans le jeu des répliques cultes parce que là, il faudrait toute une journée. Mais il y a aussi celui-là.
Joyeux Noël, Pierre.
Ah, c'est pour moi ? Oh! Ah! Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez.
Non, Pierre, c'est un gilet.
Ah oui? Ah, ben bien sûr. Ah, ben alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors, écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Je suis ravi, Thérèse.
Et voilà, le Père Noël est une ordure. Pierre et Thérèse, Katia de la Place Clichy, des dialogues cultes, des scènes absurdes, la bande du Splendide.
Alors, est-ce que c'est un film familial? Parce que je rappelle qu'il y a quand même un monsieur qui veut faire des trucs chelous à Thérèse dans le film. Bon, je ne sais pas.
Tu m'entends, Thérèse? Tu m'entends? Je ne peux pas le dire
non,
à la radio.
Non, tu peux pas, tu peux pas.
Je peux pas.
C'est un film familial pour de grands enfants.
Ah, c'est pour ça.
Voilà. Et puis à Noël, on aime bien aussi revoir les comédies romantiques, forcément. Et quand on dit comédie romantique, pour moi, et je sais que Franck a la même dans son top 3,
ouais, oui.
La comédie romantique culte par excellence, peut-être même la meilleure comédie romantique de tous les temps, c'est Love Actually. Christmas is all around me, and so the feeling grows. Franck Vallière, des destins qui se croisent, qui s'entrecroisent la veille de Noël, Hugh Grant, Emma Thompson, Keira Knightley. La scène des pancartes,
que dire de plus? Bah, c'est fantastique, c'est le premier film réalisé par Richard Curtis qui avait quand même scénarisé Coup de foudre à Notting Hill et Quatre mariages et un enterrement. Et jusqu'à présent, ces films, c'était il suffit de trouver la jolie fille avec qui se marier et tout ira bien dans la vie. En fait, il se pointe avec Love Actually, 250 millions de dollars de recettes dans le monde quand même. Et en fait, il parle des problèmes, c'est-à-dire les couples qui se séparent. Tout ça dans la magie de Noël, les gens qui meurent. Il y a même le Bill Nighy qui joue un personnage complètement torve et pervers dans le film. C'est ahurissant. Seuls les Anglais arrivent à faire ça. Emma Thompson qui
une scène,
la femme trompée qui écoute à un moment Both Sides Now de Jodie Mitchell, qui est juste l'un des plus beaux textes de l'univers. On est en émotion totale, les personnages se croisent, s'entrecroisent. Il paraît que ça a été un enfer à monter, puisqu'il s'est repris à plein de fois, parce qu'il y a trop de personnages. Et au final, de bout en bout, on a l'impression d'être à la montagne avec eux, alors que ça se passe en plein Londres quand même. C'est dingue.
Ok, allons-y. Allons nous gaver d'amour jusqu'à en crever.
Oui. Oh non, qui faut-il culbuter ici pour une tasse de thé et des biscuits au chocolat? C'est bon.
Bonjour, Aurélie.
Bonjour. Je reviens dans 2 secondes. Voilà, c'est réglé.
Et Franck, un deuxième film à voir au moment de Noël ?
Home for Christmas, uniquement trouvable en DVD, c'est très rare à trouver. C'est un monument de cynisme norvégien. Le parcours de plusieurs personnes qui veulent ou pas rejoindre leur famille pour Noël, c'est extrêmement cynique. Et c'est à la fois très grave et très drôle, comme seul le cinéma norvégien ça arrive à le faire. Tout ce qui vient d'Europe du Nord, de toute façon en matière de cinéma, est absolument brillant. Home for Christmas, trouvez-le. C'est un DVD rare, mais c'est une petite trouvaille.
C'est votre mission de Noël. Sophie Grèche, à vous.
Oui, moi je reviens au cinéma classique. On est en 1946.
Ça fait du bien.
Je parle de La vie est belle de Frank Capra.
Mais bien sûr.
Voilà, c'est pour moi l'un des plus beaux contes. Ça s'inspire vraiment d'un conte de Noël de Dickens sur cet effet fantastique avec un ange qui vient complètement rétablir le fil de vie d'une personne au bord de la dépression et même du suicide. Donc c'est très dur et en même temps c'est un vrai espoir et une ode à la vie. Et quoi de plus beau pour Noël que de retrouver le goût en la famille et en l'espoir.
Qu'est-ce que vous voulez, Madeleine? Dites-moi ce que vous voulez. Vous voulez la lune, peut-être? Vous n'avez qu'à la demander, je l'attraperai au lasso et je vous la descendrai. C'est une magnifique idée. Je vais vous donner la lune, Madeleine.
Quand je l'aurai, qu'est-ce que j'en ferai?
Vous l'avalerez tout entière. Et elle se dissoudra dans vos veines. Et l'on verra briller des rayons de lune dans votre chevelure, sur vos doigts, et vous serez scintillante.
De toute façon, s'il ne fallait en retenir qu'un, je pense que ce serait celui-là, de par son titre déjà.
Complètement.
C'est vrai que c'est le film culte américain.
Et c'est le film culte américain.
Et c'était un flop à sa sortie.
Ouais.
Ça n'a absolument pas marché. Et c'est des années après qu'il est devenu non seulement le film culte qu'on connaît, mais aussi dans les 100 films les plus importants du cinéma américain.
Et comment ? D'expliquer comment il est devenu culte.
En trois mots.
Ça a été un échec à sa sortie. Du coup, les télés ont racheté à bas coût les droits, qui l'ont diffusé sur deux décennies, qu'il est devenu culte pour les générations suivantes. Il est tombé dans le domaine public au début des années 80. C'est pour ça qu'on le voit dans Gremlins comme une référence. C'est devenu un poncif cinématographique pour que les réalisateurs utilisent pour notifier que l'action de leur film se passe à Noël, en fait.
Alors voilà,
on le voit dans Gremlins, on le voit.
C'est parfait parce que, pardon, je vous coupe, Franck, mais Sophie, son deuxième film préféré de Noël,
c'est Gremlins.
Oh,
voilà. Et j'allais dire justement qu'il y avait deux références à La vie est belle de Capra dedans. Il y a à la fois un extrait du film dans une télé, puisque c'est un film qui est grandement diffusé au moment des fêtes aux États-Unis, puis un des personnages, celui de la voisine de la méchante, qui s'inspire aussi du méchant dans La vie est belle. Donc en soi, les deux films sont assez liés, parce que Joe Dante, qui réalise le film et qui sort en 1984, est un grand cinéphile. Et là, il nous offre à la fois une comédie horrifique déjantée familiale, pleine d'esprit de Noël, mais aussi avec un petit humour noir et une ambiance années 80 dont on ne se lassera jamais.
Moi, j'ai encore mon Gremlins en peluche.
Et alors, j'espère que tu ne le nourris pas, que tu ne l'exposes pas à la lumière et que
c'est
tu
ça.
Ne le mouilles pas.
Évidemment, non, je respecte les règles.
Victor, tu manges pas avant minuit, toi?
Jamais.
Bon.
Mais après?
Allez, autour de Victor alors. Films à revoir pendant les fêtes de Noël.
Alors moi, il y a une évidence tout de suite. Alors, j'appelle ça un film d'entre-deux. Le film que je peux regarder à Halloween, mais aussi à Noël, qui est L'étrange Noël de Mr. Jack.
Ah oui.
Réalisé par Henry Selick. Tout le monde pense que c'est Tim Burton, mais non, c'est Henry Selick qui fera ensuite James et la peste géante et le film Coraline, que je vous encourage à découvrir aussi. L'étrange Noël de Mr. Jack, c'est tous ses bons sentiments. C'est justement quelqu'un avec un regard très naïf, très enfantin, qui découvre la magie de Noël et qui se dit, même moi qui viens d'un monde complètement à part, je peux vivre à travers cette magie de Noël, cette magie du rassemblement, cette magie de la famille. Les musiques sont incroyables, la direction artistique du film est folle, le film n'a pas pris une ride alors qu'il date quand même du milieu des années 90. L'étrange Noël de Monsieur Jack, je l'ai découvert enfant à Noël, il m'a terrifié et il continue de me faire rêver.
Et un deuxième film?
Alors ça, c'était le truc un peu plus tricky où je me suis dit, tiens, est-ce que je peux mettre celui-ci dedans?
Oui,
et puis
tout
pourquoi
est permis
pas
dans Clap.
Die Hard est un film de Noël.
C'est vrai.
Il faut trancher sur ce débat parce qu'à la base, c'est quand même John McClane qui se dit, je vais aller au Nakatomi Plaza pour retrouver ma femme. On est le soir de Noël. Oui, il y a des vilains terroristes, mais quand même, Bruce Willis, on est le soir de Noël. Il y a des pulls de Noël. C'est un film de Noël. Ça fait boum boum, mais voilà. C'est quand même un film de Noël magnifique.
Ah oui.
Avec cette musique Let It Snow Rock qu'on adore.
Tout à fait. Lights are turned way down low.
Let it snow, let it snow, let it snow. Merci à tous les trois. Puis on aurait pu citer tellement d'autres films. Maman, j'ai raté l'avion avec Macaulay Culkin qui est coincé le jour de Noël tout seul dans sa grande maison.
Kevin n'est pas là. Kevin n'est pas là.
Kevin n'est pas là. Quoi?
Et puis Last Christmas avec Emilia Clarke qui passe d'ailleurs en ce moment sur Canal+, comédie romantique de Noël sur un scénario d'Emma Thompson. C'est vraiment un film irrésistible. Emilia Clarke, l'actrice de Game of Thrones. Puis on aurait pu citer aussi Miracle sur la 34e rue, La Bûche de Daniel Thompson.
Un conte de Noël de Desplechin.
Exactement.
Faut Noël pas chez les Muppets. C'est complètement aléatoire, mais il fallait que je le dise. Voilà.
C'est vrai, un autre, Sophie
Krampus en film d'horreur. Tiens, moi j'aime bien.
Ah, un film d'horreur de Noël. Ouais. Donc, pas pour les petits-enfants.
Non,
c'est
pour les grands.
C'est le soir, pour ceux qui veulent veiller. Et puis dans le genre grosse comédie américaine incontournable, on n'oublie pas The Holiday avec Cameron Diaz, Kate Winslet, Jack Black ou encore Jud Law. C'est le film qui nous a donné à tous envie d'échanger notre appartement.
Salut Iris, c'est Amanda.
Tu patientes une seconde? J'ai un appel d'Amanda.
Demande-lui si elle va bien.
Dis-lui hyper bien.
Elle a dit quoi?
Il a réagi comment? Une petite seconde. Alors tu t'es tapé la fille qui vit chez moi, mille merci Graham, brillante idée.
C'est lui qui te l'a dit?
C'est pas vrai.
C'est pas vrai.
J'en reviens pas que t'es couché avec Amanda. Elle vient à peine d'ouvrir ses valises et qu'est-ce que j'apprends? Que sans perdre une seconde, tu lui as arraché son string.
C'est toujours moi.
Il y avait aussi Santa et compagnie d'Alain Chabat.
C'est vrai que c'était cool.
D'ailleurs, tiens, j'en profite quand même une information. Vous savez qu'en ce moment, on se tourne dans un secret relatif quelque part en région parisienne. Mm-hmm. Un film qui s'appelle Noël Joyeux, qui sortira pour les fêtes de l'année prochaine, qui est produit par Gaumont, qui était les producteurs de Santa et compagnie, et qui est au casting.
Qui?
Alain Chabat.
Emmanuel DeVos et Franck Dubosc.
Génial. Eh ben, bien voilà. Noël, Noël inspire, Noël inspirera toujours. Et d'ailleurs, Noël a inspiré notre Didier Alouche qui nous livre ses Noëls d'or.
Salut Laurie, salut à tous, Merry Christmas les amis. Pour fêter ça, j'ai décidé de décerner mes Noël d'or, mes récompenses à moi dans l'esprit de la fête au grand cœur. Le Noël d'or de la blague de l'année à Jodie Foster qui a raconté à Cannes en pleine masterclass qu'à l'école, elle était assez bavarde. Et comme elle a fait toute sa scolarité au lycée français de Los Angeles, ses profs n'arrêtaient pas de lui dire « Jodie Foster ». Jodie Foster. J'adore Jodie. Le Noël d'or du meilleur accent inutile de l'année est attribué à tous les acteurs de House of Gucci. Pardon, House of Gucci. La seule bande d'acteurs au monde qui vous donne envie d'éviter l'Italie pour les 10 prochaines années. En même temps, on a eu chaud, ils auraient pu faire House of Dior. Le Noël d'or du meilleur acteur de l'année est attribué à Pig. Le cochon de Pig. Le pote de Nicolas Cage dans ce film épatant que vous avez peut-être raté, mais il n'est pas trop tard, il est en DVD ou sur un streamer quelque part. Pig, il est un cochon truffier, méga bon du groin, du genre à trouver des truffes même là où il n'y en a pas. Du coup, des chasseurs de truffes le kidnappent et Nicolas est pas content. Voilà type pas qu'on lui a piqué son cochon au Nicolas. Un cochon au talent exceptionnel qui ne pourra pas venir chercher son prix. En Amérique, le plat traditionnel du 24 décembre au soir, ce n'est pas la dinde de Noël, mais le jambon de Noël. Du coup, joyeux Noël.
Merci beaucoup Didier.
14h, 15h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Et cette semaine dans Clap, j'ai le plaisir de recevoir l'une de nos actrices les plus pétillantes qui habitent le cœur des Français depuis longtemps, c'est Alexandra Lamy. Bonjour Alexandra.
Bonjour.
Est-ce que vous allez bien déjà?
Mais très très bien.
Bon, alors je souhaite un joyeux Noël puisque nous sommes le 25 décembre, donc mais merci de nous accorder
Noël,
ce temps. Alors on parle du test qui sera en salle la semaine prochaine, mercredi 29 décembre. C'est une comédie que j'ai adorée, tellement rafraîchissante, d'Emmanuel Poulain-Arnaud. Je crois que c'est son premier long métrage, en tout cas pour le cinéma. Un très beau portrait de famille, vous incarnez une sorte de mère courage qui court après la perfection. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce film?
Alors d'abord le scénario, parce que je trouve que Emmanuel, il a fait donc le réalisateur Emmanuel Poulain-Arnaud, il a fait un travail formidable. Tout était déjà dans le scénario. La rencontre avec Emmanuel, parce que c'est vraiment un réalisateur extraordinaire, et la force d'un réalisateur aussi, parce que c'est une comédie, mais on est ému aussi, comme vous disiez, on se retrouve, il y a une projection de la famille complète, hein, parce que je disais même les jeunes, que je dis bravo d'ailleurs, parce que Mathéo, Joachim, Chloé, ils sont formidables
ils
dans
sont
le
incroyables.
Film. Les jeunes, allez le voir, parce que tout le monde se retrouve là-dedans, c'est vraiment une famille.
Ah mais il y a toutes les générations, de toute façon vous allez nous présenter toute cette joyeuse famille, parce que c'est vrai que c'est rare dans un film comme celui-là, un film de famille où généralement il y a toujours un second rôle qui n'est pas très bien exploité, alors que là, à la fin, on a envie en fait de passer un moment avec cette famille.
Mais ouais, et d'ailleurs on a fait une tournée des provinces et il y a plein de gens qui m'ont dit « Pourquoi vous en faites pas une série ?» C'est génial.
Alors déjà, comment est-ce qu'on peut résumer
mais l'histoire, c'est votre personnage, c'est oui, c'est la mère courage, c'est cette mère de famille qui, on sent qu'elle tient la famille à bout de bras depuis de nombreuses années, qui a un petit, quand même, une petite obsession de la perfection.
Complètement, mais en fait, c'est une femme qui a décidé, donc une fois qu'elle est mariée, d'avoir des enfants, que maintenant, voilà, c'était une femme, c'était une adulte, c'était une mère de famille. Donc elle s'est complètement oubliée d'ailleurs. Hein.
Complètement.
Elle a sacrifié sa vie un peu pour tout le monde, et d'ailleurs, on va lui reprocher plus tard, parce qu'on finalement, les enfants pourront lui dire, mais pourquoi tu nous culpabilises, nous on t'a rien demandé, hein. C'est ce qui souvent nous arrive.
Les enfants sont toujours ingrats.
Elle s'est oubliée elle-même, et tout ce qui est important pour elle, c'est l'apparence. Et c'est terrible, parce qu'elle est presque prête à accepter des choses pour que, du moment que la famille existe, et qu'en apparence, cette famille, elle semble heureuse. En apparence, on est une famille heureuse, c'est ce qu'elle dit d'ailleurs. Et elle est prête à tout pour ça, quoi. Ça fait penser même parfois un peu à les Instagram, vous savez, on fait des photos pour montrer qu'on est formidable, mais en fait, on s'ennuie terriblement.
Elle a un de ses fils d'ailleurs qui fait ça, hein, qui est très sur les réseaux sociaux.
Exactement.
Parce que c'est vrai, ce que vous disiez, c'est que ça brasse beaucoup de thèmes très actuels. Elle dit cette phrase qui résume ce que vous venez de nous expliquer, mais quand on a des enfants, on joue à être adulte, et puis un jour, on se rend compte qu'on l'est devenu.
Mais ouais,
et c'est complètement ça, en fait.
Et c'est complètement ça.
T'as trouvé ça où ?
Dans la poubelle de la salle de bain.
Et donc ?
C'est à qui ?
Sûrement une de mes patientes.
Laurent, t'es gériatre.
Oui, ben je sais pas, alors.
Ouais, c'est pas comme ça, 19 ans. Quand tu deviens mère la première fois, quand tu deviens une maman, tu joues à l'adulte.
Mais ici, on a des règles !
Pourquoi ? Mais c'est ta mère, tes règles, ça me saoule !
Puis à force de faire semblant, bah... Tu deviens adulte.
Je suis complètement défoncée. César, tu vas prendre le volant, d'accord ?
On ressemble quand même à une famille heureuse. On est une jolie famille, non ?
Au démarrage du film, même on se dit on va pas l'aimer, ce personnage, en fait. Ouais. Elle va vite nous oppresser comme elle peut oppresser ses enfants.
Mais complètement, parce qu'elle veut tout gérer. D'ailleurs, il y a une scène dès le début où elle rentre dans la cuisine, quand une fois qu'elle a trouvé ce fameux test de grossesse.
Oui, parce qu'on n'a pas expliqué. En fait, elle va tomber sur un test de grossesse positif chez elle.
Exactement.
Et elle veut savoir d'où il sort.
D'où il sort, à qui appartient ce test de grossesse. Donc, elle va mener son enquête dans sa famille. Et quand elle rentre dans la cuisine, elle a ce test de grossesse donc pour interroger ses enfants. Il y a un de ses enfants, juste avant qu'elle arrive, qui dit « Tiens, j'aimerais bien changer mon planning. » Et il y a l'autre qui lui dit bah non, tu peux pas, tu sais que c'est maman qui gère, c'est elle qui gère tous les plannings et ça passe tout par elle. Et en fait, c'est exactement ça. Elle gère tout, même son mari qui est gériatre. Elle connaît tous les patients. Je me
demande. Joué par Philippe Catherine.
Philippe Catherine, qui est merveilleux. C'est même elle qui gère tout le planning. Je suis persuadée que ça doit être elle qui doit gérer tout le planning des patients, etc. Elle est au centre de tout. Et en fait, elle s'est un peu oubliée, cette femme. Et c'est pour ça que cette enquête aussi, ça lui permet d'un coup de découvrir des... J'ai l'impression qu'elle était attachée par des fils. Et puis d'un coup, quand elle a enfin... Elle se désinhibe à un moment donné, grâce à un jeune d'ailleurs. Ouais. Et elle pète un peu tout. Et enfin, elle se lâche, quoi. Et enfin, en fait, elle décide de ne plus se juger, de ne plus...
De ne plus être simplement une mère.
Ouais, de plus être simplement une mère. Et je m'en fous d'être jugée.
Et puis la scène d'ouverture est géniale.
Génial.
Scène d'ouverture à l'école où elle aimerait faire sauter une classe à son fils, puisque
on a tout été comme ça.
Évidemment,
on a toujours l'impression
qu'on a fait un génie.
Mais bien sûr. Mais ça, c'est génial. On a tout eu ça.
Moi, j'avoue, j'ai demandé la semaine dernière à ma pédiatre si mon fils d'un an et demi pouvait passer un test de QI. Mais bon.
Non, mais ça. Mais on a tous.
Et après, je me suis dit, mais quelle folie.
Mais on est toutes pareilles.
C'est vrai.
Évidemment.
Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cette famille?
Alors, d'abord, il y a Philippe Catherine, mais mon Dieu que j'aime Philippe Catherine, j'arrête pas de le dire, j'aimerais faire tous mes films avec Philippe Catherine. J'aimerais être la Claude Jansac de Philippe Catherine et d'être sa femme de cinéma.
Oui, parce qu'il a cette fantaisie qui amène tellement de choses différentes.
C'est un bonheur. D'abord, c'est, je crois, un des hommes les plus gentils que j'ai... Mais malheureusement, aujourd'hui, quand on dit gentil, on a l'impression que c'est très négatif. Alors que non, ça fait tellement du bien, il y a tellement de méchants.
Il faut dire bienveillant, alors, comme ça.
Ouais, mais bon, non, c'est un vrai gentil. C'est un homme qui écoute, qui est d'une poésie incroyable, qui est d'une intelligence incroyable, qui est un artiste incroyable, parce qu'il est extrêmement doué dans plein de choses. Il n'y a pas que la musique, mais dans plein de choses. C'est quelqu'un qui est un super partenaire de jeu. Et donc mon mari, joué par Philippe Catherine, qui est gériatre...
Pas forcément un super mari dans le film.
Qui n'est pas forcément un super mari. Mais peut-être que c'est aussi sa faute aussi.
Oui, c'est vrai.
Donc, on va le comprendre dans le, dans le film. Elle, c'est évidemment cette femme donc, qui a voulu tout gérer et qui veut être au centre de sa famille et donc être au courant de tout ce qui se passe. Et j'ai mes quatre enfants, donc le petit Antoine, qui s'appelle vraiment Antoine d'ailleurs, qui est le plus jeune, qui a, je crois, 6 ans, un truc comme ça, 5-6 ans. Et puis mes enfants merveilleux, Chloé, Mathéo et Joachim, et qui sont formidables dans le film. Et je trouve que, et c'est là où est la force de, du réalisateur Emmanuel, c'est de leur avoir donné à chacun un vrai rôle à défendre. Ils ont tous une vraie caractéristique.
Ils sont vrais, ils sont.
Il y a pas de clichés.
Ils ont des imperfections. Ils sont
complètement.
Ce sont des jeunes. Ce sont vraiment des ados. Ils ont tous un univers différent. Ils ont tous une forte personnalité. Celui qui est romantique, sa propre mère pense qu'il a même pas de petite copine. Il fait ses cours de musique et puis finalement, c'est un gros séducteur. Il y a celui qui est en couple, qui vit pour les réseaux sociaux, qui est assez sensible, qui est aussi très touchant. Et puis la votre fille dans le film. Oui. Sublime.
Chloé,
il y a une scène magnifique avec elle.
Et puis en plus, c'est vrai qu'on a fait ce film, on était en plein confinement, on avait aussi des couvre-feux, donc à 21h30, donc parfois on était allés tous manger en famille. Mais je dis en famille, parce que c'est vrai qu'on allait manger en famille avec Philippe et les enfants. On allait manger ensemble et on avait l'impression d'être en famille.
Ils vous demandaient des conseils d'ailleurs ?
Ouais, mais alors moi, j'aime pas qu'ils viennent me demander conseil, mais je les accompagne. Alors, c'est toujours difficile pour moi à dire, mais je sais que eux, par exemple, ils m'ont dit merci, tu nous as aidés, tu nous as accompagnés. Mais bien sûr,
déjà,
on
c'est votre personnalité, vous êtes tellement. C'est vrai, vous êtes généreuse en interview, donc j'imagine sur un plateau pareil. Ah ben,
mais de toute façon, moi je pars du principe que c'est comme au tennis hein, de jouer avec quelqu'un. S'il est mauvais, vous êtes mauvais. Donc si vous voulez avoir un bel échange, c'est bien d'avoir
autant
quelqu'un
qui joue
bien.
Autant les porter un peu.
Donc il faut faire en sorte que ça se passe bien. Mais là, c'était franchement, ils vont avoir tous les trois une carrière extraordinaire.
Trois belles découvertes. D'ailleurs, il y a une scène très jolie, il y a une musique dans le film qu'il faut absolument, enfin que vous allez tous avoir envie de télécharger après le film.
LSD, vous allez adorer.
C'est ça. Et chante, il danse, enfin voilà, on y croit en fait. Ouais. C'est drôle de parler de ce film le jour de Noël où vous êtes tous, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous nous écoutez en famille. Et c'est vrai que cette scène-là, elle est magique. C'est une vraie belle scène de Noël. Quel genre de mère vous êtes, Alexandra Lamy ?
Alors moi,
vous
avez
des points communs avec votre personnage ?
Oui, il y a forcément un petit peu des points communs. Mais par exemple, on a fait une scène d'improvisation avec ma fille, jouée donc, par Chloé. Le réalisateur nous a demandé d'improviser une dispute dans la cuisine. Mmh. Et en fait, on l'a improvisée de façon extrêmement rapide parce que moi, je me suis vue en train de le dire à ma fille, de me voir en train de le subir par ma mère. Et elle a eu exactement la même chose. Et en très peu de temps, mais en un quart d'heure, on avait fait cette scène d'improvisation, de dispute entre une mère et une fille. On avait tellement, nous, on connaît tellement par cœur. Donc, oui, et puis effectivement, parfois d'être un peu intrusive, on a tout un peu ça. Toutes les mères ont un peu ça, comme vous disiez tout à l'heure.
On a envie de tout savoir.
On a envie de tout savoir. Et puis surtout les femmes, on est très comme ça. Hein. Les mères,
tout
on
contrôlé.
Est très, très là-dedans. On a bien tout contrôlé, quoi. Et puis en même temps, c'est bien aussi de leur laisser aussi leur petit jardin secret, mais qu'on a toujours très envie de savoir. Et comme je vous disais tout à l'heure, moi aussi, à un moment donné, je me suis dit, elle est très intelligente, cette petite, je vais faire un petit test de QI quand elle avait 3 ans, parce que d'un coup, elle a dû faire un dessin, et tu dis, oh là là, qu'est-ce qu'elle dessine bien, ça doit être très intelligent, ça, non ?
C'est ça.
Tiens, elle adore les dinosaures, ça doit être intelligent, les enfants qui aiment les dinosaures, non ? Pour son âge.
Et elle est très active, c'est parce qu'elle se sent pas comprise.
Elle se sent pas comprise, ça doit être ça.
Est-ce que vous êtes demandé aussi comment vous auriez réagi à la place de votre personnage ?
Ben, quelque part.
Parce que c'est vrai que vous trouvez donc un test de grossesse positif qui, donc le calcul, il est vite fait, hein, finalement. Vous vous dites, c'est soit l'un de mes deux garçons, vous pensez à celui qui est en couple.
Ouais, complètement.
Soit
quelqu'un de l'extérieur.
Rien à faire là, en
tout cas. Ouais, je pense que quand même, on a envie de savoir. Parce qu'évidemment, quand on a les enfants, oui, on se dit, attends, est-ce que... Oui, j'aurais fait la première chose, c'est-à-dire que je serais allée voir mon mari pour lui demander s'il n'y avait pas une patiente qui avait utilisé nos toilettes. Oui. Ce qui est très drôle, c'est qu'il dit, bah, je suis gériatre. Enfin, c'est elle qui lui dit.
Donc, a priori, plutôt. Voilà.
Donc, a priori, il y a quand même très peu de chance. Oui, quand même, je pense que j'aurais un peu mené mon enquête. J'aurais aimé savoir, parce que c'est des jeunes, donc c'est un bouleversement dans une vie, si c'est positif.
Peut-être pas jusqu'à aller prendre votre fils par la main pour aller voir toutes les petites copines.
Non, peut-être pas.
Mais bon, c'est pour ça qu'on l'aime aussi, ce personnage. Et Alexandra, on va parler aussi des films de votre vie. Pour terminer sur le test, qui est vraiment, pour moi, l'une des comédies familiales qu'il faut absolument voir en ce moment, qui a un ton vraiment très, très différent. Quel est votre meilleur souvenir sur ce tournage ? Qu'est-ce que vous en gardez ?
Et justement, j'allais dire exactement l'essence qu'il y a dans ce film-là, c'est-à-dire ce côté familial. Moi, j'ai eu à un moment donné, j'ai une scène que j'adore dans le film, et pourtant, je suis juste en tant que spectatrice. Bizarrement, je suis derrière la fenêtre, et je pense que vous allez savoir de quoi je parle. Et je suis en train de voir mes enfants dans la cuisine, en train de danser et de faire à manger. Et je me suis entendue et vue dire « Qu'est-ce que j'ai réussi, mes enfants ?» Je me suis dit « Waouh, ça y est, je suis complètement schizophrène. » Et je trouve ça magnifique parce que je les voyais, parce que c'est exactement ce qu'on avait entre nous, même quand ma fille, dans le film, fait de la GRS, on était tous là avec elle, on la soutenait, il y a eu un truc, mais même entre eux, ils s'entendent tellement bien. On a réussi à créer ça et je garderai ça de ce film, là, évidemment avec Philippe Catherine, merveilleux, et Emmanuel, ce réalisateur que j'ai adoré, parce que, petite anecdote, entre guillemets, mais... Au début, les trois premiers jours, moi, il m'a beaucoup secouée, Emmanuel.
C'est vrai ?
Mais oui, parce que je suis une vieille actrice, j'ai 25 ans de carrière. Donc, je veux dire, on a des béquilles.
Lui, c'est son premier long.
C'est son premier long, mais on a des béquilles, on a des petits... Voilà, des petits tics, des petits tocs, des machins. Donc, et en fait, il m'a tout gommé, il m'a tout cassé. Et au bout de trois jours, j'ai dit, attends, Emmanuel, je ne sais plus où j'en suis, là. Tu m'as complètement perdue. Il me dit, mais fais-moi confiance, fais-moi confiance. Et en fait, il m'a... Même il m'a redonné envie encore de continuer à faire ce métier. J'allais pas dire que je voulais m'arrêter, mais parce qu'il m'a amené aussi autre chose.
Quelque chose de nouveau.
Et ça, c'est formidable d'avoir ça chez un réalisateur.
Est-ce que c'est compliqué d'ailleurs de faire d'accepter de faire confiance à un réalisateur qui fait son premier long métrage alors que vous avez toute cette carrière derrière vous, justement?
Ben, c'est... Ouais, mais en même temps, moi, quand je regarde ma carrière, en fait, c'est d'ailleurs, c'est marrant, c'est mon agent qui m'a dit ça la dernière fois. Il me disait, mais en fait, c'est marrant, tu ne fais que souvent des premiers films. Et en fait, j'aime bien.
On en a fait beaucoup.
Parce que je trouve que dans les premiers films, il y a un truc d'équipe d'un coup. Et moi, j'adore ça. Où d'un coup, tout le monde va tout donner pour ce film-là. Parce que c'est son premier, parce qu'on a envie d'être avec le réalisateur, on a envie de l'accompagner. Et puis, en plus, là, c'est des jeunes réalisateurs. Donc, ils amènent autre chose. Et puis, un œil qu'on n'avait pas vu. Et puis, ils amènent une nouvelle vague, j'allais dire entre guillemets, mais une autre façon de travailler qu'on ne sait pas. Donc, moi, j'adore ça. J'adore exploiter d'autres choses. C'est pour ça aussi qu'on fait ce métier. Parce que sinon, on s'ennuierait. Et donc, oui, Emmanuel, il m'a amené ça et ça a été formidable. J'ai adoré.
Et c'est un très beau rôle. Alors, on parle du cinéma et des films de votre vie. Votre première émotion au cinéma?
E.T.
E.T. Maison téléphone.
Premier roulage de pelle, même.
C'est vrai.
Un roulage de pelle. Petit bisou.
Vous aviez quel âge?
Je me rappelle plus, c'est de quelle année E.T. Oh, je devais être jeune. Mais c'est le premier petit bisou, le petit smack.
Oui, petit bisou, ouais, voilà, c'est ça.
Le petit smack. Vous savez, c'était
peut-être
les années aussi.
Pelle.
Non, peut-être pas la vraie pelle, mais c'était les années aussi où on allait un peu au cinéma avec le petit copain.
Oui, oui, oui.
Enfin, c'était la sortie, quoi.
Et oui, puis c'était l'endroit où on pouvait avoir un peu d'intimité.
Voilà, on pouvait un peu se toucher la main, l'air de rien, en regardant un film. Parce qu'à un moment donné, il y avait une scène sans doute très romantique, on se disait, oh là là, c'est trop beau.
Et bah oui, quand E.T. retourne chez lui, là, vous pouvez vous blottir dans les bras.
Et puis honnêtement, E.T., c'est. Mais je crois que pour tout le monde, d'ailleurs, c'est un chef-d'œuvre total. Bon, moi, je suis une énorme fan de Spielberg parce que je trouve que c'est un des réalisateurs qui arrive à faire des films entre La Liste de Schindler, E.T., enfin, je peux en citer...
Et West Side Story, en ce
Story,
cinéma, en d'ailleurs.
Moment, qui est capable de tout faire, c'est incroyable. Des Indiana Jones, enfin, je veux dire, c'est dingue. Et E.T., je veux dire, c'est extraordinaire. Et j'ai su cette anecdote-là, c'est qu'au départ, il n'y avait pas du tout le personnage d'E.T. dans le film.
Ah oui ?
C'est venu bien après. En fait, Spielberg, il avait fait ce film-là uniquement pour raconter une histoire d'un enfant qui n'avait pas de père. Et donc, c'était juste cette relation qu'il voulait
avec
écrire avec un ami imaginaire. Et il a rajouté E.T., mais bien après.
Votre meilleur souvenir de cinéma ?
Mon meilleur souvenir de cinéma... Alors, c'est marrant, c'est un dessin animé, ça s'appelle Le Roi et l'Oiseau. Parce que je l'avais vu avec ma grand-mère. Parce que souvent, les grands-parents nous emmenaient un peu le mercredi après-midi au cinéma. Et donc, j'ai un souvenir de ce... Parce que Le Roi et l'Oiseau, c'est un super dessin animé, en fait. Et c'est vrai que...
Le texte de Prévert.
Ouais, exactement. Et c'est marrant parce que c'est... En voyant le film plus tard, je me dis, tiens, c'est marrant que, jeune, on ait aimé ce genre de dessin animé. Et on est très surpris, parfois, chez les enfants, de se rendre compte qu'ils aiment bien, justement, ce genre de dessin animé. Parce qu'ils sont un peu à l'encontre de ce qu'on voit, peut-être
oui,
moins...
Oui, avec moins d'effets.
Ouais.
Moins
et donc, j'ai eu un super souvenir de ce dessin animé, Le Roi et l'Oiseau.
C'est un film magnifique. Vous nous aviez dit aussi 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ.
Ah bah ça...
Alors, je vais vous dire pourquoi deux ans.
C'est ça, je me suis dit, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que depuis la rentrée, personne nous a cité ce film, donc c'était très bien qu'on en parle.
Deux ans moins le quart, je vais vous dire, deux ans moins le quart avant Jésus-Christ, c'est un souvenir extraordinaire parce que je l'avais vu donc au cinéma d'Alès avec mes parents, parce qu'en plus là, on y allait souvent avec les amis, etc. Je n'ai jamais entendu une salle rire autant. Et dont ma mère, qui a un rire tellement communicatif, il faut mettre ma mère dans une salle. Si vous avez un film de comédie, si vous voulez que la salle rigole, vous mettez ma mère. Elle a un rire communicatif extraordinaire et un très beau rire. Et je n'avais jamais entendu une salle rire autant. Et en plus, le film était formidable, extraordinaire, avec une brochette d'acteurs fabuleux et puis une liberté aussi.
Oui, c'est vrai, pour l'époque.
On perd aujourd'hui parfois et qu'on n'avait pas peur à l'époque d'y aller un peu, quoi, de faire presque, j'allais dire, entre guillemets, de la caricature et de l'assumer et d'y aller à fond.
Complètement, c'est de la caricature de péplum.
Mais complètement,
à 2000%.
Et c'était génial. Et j'ai jamais entendu une salle rire autant, mais les gens, c'était dingue. Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ, c'est incroyable.
Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con?
Oui.
Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons?
Oui.
Que les émirs, la police et l'armée sont des cons?
Oui.
Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons?
Oui.
Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons.
Le film qui vous fait le plus rire?
Ah bah, de toute façon, c'est forcément un film de Jim Carrey. Allez, je dirais Fou d'Irène, parce que bizarrement, on le connaît moins et que c'est génial.
Oui, c'est vrai.
C'est
avec
génial.
René Zellweger.
Ah ouais, c'est extraordinaire.
Frères Farrelly.
Bien sûr. Extraordinaire. Mais j'adore. Et j'adore Jim Carrey, qui est pour moi vraiment un génie. Et d'ailleurs, dans Fou d'Irène, il se fait une bagarre avec lui-même, mais qui est... Mais c'est du génie. D'ailleurs, je pense que cet homme est fou. J'avais vu le documentaire sur lui.
Oui, il est complètement
fou. De toute façon, on ne peut être que fou.
Il est habité.
Mais c'est un
très
acteur,
habité.
Mais incroyable. Et lui, j'adore parce qu'il n'a pas peur d'y aller, quoi.
Vous aviez aimé aussi Dumb and Dumber.
Mais Dumb and Dumber.
Ça me rassure.
Mais évidemment, je le connais même par cœur. Je suis avec du givre. Ça, c'est le truc. C'est tout con. Mais moi, qu'est-ce que ça m'a fait rire quand il dit chouette du givre et qu'il se colle la langue contre.
Et qu'il reste collé. Avec Jeff Daniel. Non, mais ce duo est quand même.
Ce duo fabuleux.
Donc, rien à voir, votre comédie romantique préférée?
En ce moment, elle est. je ne l'ai pas encore vue de Spielberg, mais White Side Story. Mais oui. Et d'ailleurs, que les jeunes adorent. Moi, je me rappelle, je l'ai montré à ma fille. Elle devait avoir, je sais pas, 12, 13 ans, mais elle le regardait en boucle.
Ouais.
Mais c'est extraordinaire, ouais, ça. Et c'est
les chansons, l'image, la photo.
L'image,
tout.
Les acteurs sont formidables. Et c'est là où les Américains, ils sont hyper forts pour les comédies musicales. C'est qu'ils ont des acteurs qui savent et jouer, et chanter, et danser.
Faire.
Parce qu'ils ont des écoles pour ça que parfois, nous, on ne fait pas. On néglige, je pense, dans les écoles de théâtre, le chant et la danse. Et c'est tellement génial d'avoir ces compléments. C'est hyper important pour un acteur, je pense.
Ah bah c'est sûr, mais la version Steven Spielberg est vraiment extraordinaire. La mise en scène est dingue, il a remodernisé ce film. Enfin vraiment, je vous le conseille vivement. Mais allez le voir avant le 29, comme ça après vous pouvez aller voir le test.
Oui.
En toute tranquillité.
Je vous avais jamais vu avant. Vous n'êtes pas portoricain.
Et c'est grave.
Tu veux déclencher une troisième guerre mondiale ? Ce type, personne ne te le pardonnera.
La vie compte plus que tout, plus encore que l'amour.
Un film à conseiller à un enfant?
Un film à conseiller aux enfants, mais les Goonies. Mais les Goonies, mais c'est extraordinaire, les
Choco,
Goonies.
Choco, Sino, Sinoc, enfin...
Ah ouais, mais génial.
Ça sent les glaces? Ce sont des glaces à l'italienne. Et regardez, il y a vanille pralinée et vanille chocolat. Il y a aussi fondant chocolat. Et quoi?
C'est un cadavre.
Mais tous les enfants adorent.
D'ailleurs, c'est Spielberg qui a écrit le scénario.
Mais bien sûr, c'est Spielberg. Évidemment, c'est un génie. Ouais. Cet homme est un génie.
Mais vous l'avez déjà rencontré ?
Non, mais j'adorerais. Ah, mais ça serait terrible d'ailleurs, parce que je crois que je serais accrochée comme une moule à son rocher, comme ça. Ça serait terrible. Je suis tellement fan, j'adore. Et en plus de l'avoir vu dans des interviews, cet homme a l'air tellement très ouvert. Moi, je sais que j'ai des copains qui l'ont rencontré, qui ont pu lui parler d'une façon. De toute façon, les Américains sont parfois beaucoup moins prétentieux
que
nous.
Ils sont assez sympas.
Et on peut leur parler, ils ont ce côté très amazing, mais en même temps, ils ont ce côté aussi, on peut leur parler très facilement.
Très accessible.
Et très accessible. Et ça, c'est super. Mais, et les Goonies, mais il faut montrer ça à vos enfants, ils vont adorer.
Mais c'est moi, j'ai des souvenirs de ce film.
Génial.
Je ne sais pas combien de fois je l'ai vu, film d'aventure, de bande comme ça, c'est incroyable.
Ce qui est pas mal, pas d'ailleurs, période de Noël.
Oui, c'est bien aussi, ouais. Après, je ne saurais pas déterminer à partir de quel âge on peut regarder les Goonies. Il faudrait que je le revoie, je ne l'ai pas vu depuis un petit moment.
Ouais, moi
ça
aussi,
peut faire peur au tout petit quand même.
Oui, peut-être au tout petit.
Voilà. Bon, comme on est le 25 décembre, forcément, votre film de Noël préféré ?
Mon film de Noël préféré, alors je dirais... Moi, j'aime bien les Mrs. Doubtfire. Tootsie.
Ah oui, c'est
j'ai
vrai.
J'ai adoré tous ces films-là, moi. Je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression que ça faisait toujours un peu Noël.
C'est vrai.
J'adorais ça. Il y a un côté comme ça.
Avec la transformation.
La transformation, ouais. Pour moi, c'est très Noël. Après, moi, il y a un film que j'adore et qui me fait toujours du bien à regarder à Noël.
Le Père Noël est une ordure, non ?
Ouais, le Père Noël est une ordure. Évidemment, Les Bronzés, mais bien sûr. Sinon, bien La vie sûr. Est belle de Capra.
Ah, La vie est belle de Capra. Bah,
oui. C'est magnifique.
Ah, bah, on en a parlé en première partie, évidemment.
Il y a un espoir de vie là-dedans qui est fabuleux, quoi. Et ah ouais, j'adore. Et ce que j'aimais bien d'ailleurs, La vie est belle de Capra, mais si vous voulez montrer alors, aux enfants aussi, moi je me rappelle, c'était le Noël de Mickey. Vous vous rappelez pas de ça ? Le Noël de Mickey, c'était avec Picsou, et donc c'est un Jiminy Cricket, je crois, qui vient montrer à Picsou les Noëls passés, les Noëls présents et les Noëls futurs. Et c'est les Noëls de Mickey. Et donc Picsou, qui est extrêmement radin, je me rappelle, Mickey était son ouvrier et il a pas beaucoup d'argent. Et en fait, il est extrêmement radin, Picsou. Et donc, il a un petit Jiminy Cricket comme ça le soir de Noël qui vient lui montrer le Noël passé, le Noël présent de Mickey et le Noël futur. C'est hyper beau et ça fait penser un peu à La vie est belle de Capra.
C'est vrai ?
C'est magnifique.
Je prends note.
Ah ouais, le Noël de Mickey, c'est magnifique.
Que moi, ça y est, il y en a une de 3 ans, donc je peux commencer. Je me fais ma liste grâce à tous mes invités chaque semaine.
Sinon, les enfants, ils adorent tout ce qui était. Moi, je montre ça à mon petit neveu. Mais alors, tout ce qui est Bugs Bunny,
tous les cartoons.
Tous les cartoons, mais en fait, les gamins, ils adorent.
C'est
ça aussi, il y a une liberté de dingue.
C'est vrai.
C'était génial.
Je ne vous ai pas demandé qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la nouvelle année ?
D'être toujours là l'année prochaine.
Ça, vous avez plutôt intérêt. Alexandra, votre bande originale préférée ?
Bah là là, je crois que j'en ai pas mal.
On a parlé de West Side Story, évidemment.
Bien sûr, elle est magnifique. Moi, j'ai beaucoup aimé Hans Zimmer. Il y en a pas mal. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est de Ennio Morricone. Ça s'appelle Friends et qui est extraordinaire. J'adore cette. Mais j'adore aussi Ennio Morricone dans tous les.
Et j'allais dire quand est-ce qu'il a fait une mauvaise musique, Ennio Morricone.
Je crois que jamais.
Je crois que pareil, on en parle chaque semaine dans Clap, Ennio Morricone.
Mais complètement.
Mais en même temps,
c'est
culte.
C'est culte. Complètement.
Merci beaucoup. Je rappelle que le test sera au cinéma donc mercredi 29 décembre, qu'il faut absolument aller le voir parce qu'Alexandra Lamy est époustouflante comme d'habitude aux côtés de Philippe Catherine et de toute cette famille. Vous allez voir, vous allez plus vouloir les quitter après avoir découvert ce film. La tradition, c'est de vous demander quelle chanson on va écouter maintenant avant de se retrouver pour la dernière partie de Clap. Alors, on a évoqué pas mal de bandes originales de films, mais moi, j'aimerais qu'on écoute la chanson. Du test.
Ah bah oui,
vous êtes d'accord.
Bien sûr.
Voilà, donc je me permets de vous le proposer, mais je pense que vous
mais
y auriez pensé aussi.
Avec plaisir.
Bon, alors on écoute.
Thundercloud, LSD.
Et nous, on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de Clap. À tout de suite sur Europe 1. Where to love? Put down into us. We need to stay.
did love go? You put the running into.
Choléva sur Europe 1.
Vous êtes bien à l'écoute de Clap, et oui, même le jour de Noël, on continue de vous parler des sorties cinéma, et croyez-moi, il y a de jolis films à découvrir en famille. Alors autour de la table, ils sont là depuis le début de l'émission, d'ailleurs ils sont là, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, c'est Franck Vallière et Victor Bonnefoy, et Sophie Grèche qui est avec nous cette semaine.
J'arrive pas à savoir si ces lancements sont de mieux en mieux ou de pire en pire.
C'est-à-dire que tout le monde va savoir qu'on habite ici maintenant. Ouais. Ça, c'est...
Bah, d'ailleurs, tu pourras ranger ta tente s'il te plaît, elle prend de la place sur la mienne.
D'accord, ok.
Je pense qu'ils sont de pire en pire, mais c'est pas grave.
Mais
c'est
non,
sympa.
On les aime quand même.
Merci, merci pour ces encouragements, je prends. On commence par un film qui va vous faire danser, chanter. C'est une suite, c'est Tous en scène 2. Et dans cette suite, eh bien, nos personnages n'ont pas le droit à l'échec. Et oui, la petite troupe doit monter un spectacle sur l'une des plus grandes scènes de théâtre avec Clay Galloway, star mythique mais introuvable depuis des années.
Musique !
Nous voilà sur le point d'emmener notre spectacle dans la capitale mondiale du divertissement.
Je vous donne 3 semaines pour un show parfaitement huilé.
Nous ne pouvons pas laisser cette brute nous voler nos espoirs et nos rêves.
Du cran, de la foi, voilà ce dont vous avez besoin maintenant.
Bonsoir, j'ai l'immense plaisir de vous inviter à une représentation unique marquant le retour du légendaire Clay Calloway.
C'est quand même trop mignon. Et parmi les voix françaises, on retrouve Jennifer ou encore Damien Bonnard. Écoutez-les nous parler de l'expérience du doublage de voix.
Retrouver ce personnage de Rosita, c'était vraiment une récréation. Ça demande de la rigueur et de la discipline parce qu'il y a une synchro quand même, il y a quand même du travail. Mais c'est une vraie bouffée d'oxygène parce que j'ai appris et parce que j'ai passé vraiment du bon temps.
C'est difficile en fait, il faut coller au dessin. Et bah, si on n'est pas au bon endroit dans la voix, ça se voit. Il y a un truc qui fait que d'un seul coup, le loup a l'air d'avoir une voix qui n'est pas la sienne. Ça faisait longtemps que j'avais envie de travailler comme ça, d'essayer de voir ce que c'était aussi de jouer de cette manière-là, parce que c'est encore autre chose que le cinéma.
Alors Sophie Grèche, vous l'avez vu Tous en scène 2 ?
Eh oui.
Et vous avez aimé ?
Mais oui, évidemment. Comment ne pas aimer cette troupe d'animaux survoltés qui chantent, qui dansent, en plus des tubes qu'on connaît tous. Mmh. C'est parfait pour les enfants, parce qu'en fait, ça montre aussi bien... Autant le premier était dans comment... Tout le monde va s'unir pour créer un petit spectacle. Là, ça déborde encore plus. On arrive dans une espèce de Las Vegas avec des néons partout, des créations de costumes et de décors plus fous les uns que les autres. Et encore une fois, un dépassement de soi qui est un super bon message pour les enfants, de croire en ses rêves. Mmh. Parce que c'est pas toujours la ligne édito parfaite pour un film pour enfants.
Si, je suis bien d'accord.
Donc, je suis assez fascinée par l'évolution technique, notamment d'Illumination qui est à la base du projet. Parce qu'on en arrive à des textures aussi belles que chez du Pixar. Par exemple. C'est magnifique.
Merci beaucoup. Alors lui aussi, il croit en ses rêves. C'est Keanu Reeves.
Eh ben dis donc.
Et je sais que Victor Bonnefoy est très très fan de Matrix Resurrections, donc c'est lui qui va vous en parler dans une poignée de secondes.
J'ai fait des rêves qui n'étaient pas que des rêves. Prends ton envol.
Tu veux la vérité, Neo. Tu vas devoir me suivre.
La seule chose qui compte pour toi est toujours là. C'est pour elle que tu te bats encore. Et que tu ne baisseras jamais les bras.
Victor Bonnefoy, pilule rouge ou pilule bleue ?
Oh là là là, la pilule rouge immédiate, c'est... Matrix 4, en fait, il arrive à un moment où on a eu énormément de licences qui ont été rebootées, remakées, etc. Il arrive un peu plus de 20 ans après le premier épisode de Matrix.
Oui, la saga a démarré en 99.
Exactement. Et c'est Lana Wachowski qui arrive et qui nous délivre un discours à travers Matrix 4 qui est « On a sorti trois chefs-d'œuvre il y a 20 ans, pourquoi vous continuez à regarder de la merde ?» C'est vraiment ce qu'elle vient nous raconter et nous expliquer, c'est « Vous êtes encore enfermés dans la matrice. On a essayé de vous libérer, on a essayé de vous proposer une autre vision du cinéma et vous êtes restés enfermés dans la matrice. » En plus, tout un film assez méta qui va reprendre le premier film Matrix pour l'intégrer à sa diégèse et pour en faire tout un discours sur la nostalgie et pourquoi la nostalgie au final ça n'a pas beaucoup d'intérêt, pourquoi il ne faut pas regarder vers le passé, il faut regarder vers le futur et comment le passé nous a construit, nous a forgé en tant qu'être humain avec des scènes d'action mais d'une folie pure. On parlait il y a quelques semaines de Spider-Man, c'est l'anti-Spider-Man, c'est l'anti je regarde vers le passé, je regarde la nostalgie, c'est l'envie d'aller vers le futur. C'est un film qui se moque d'avoir été analysé et qui pourtant est un produit à analyser absolument brillant. Matrix 4, c'est un de mes plus gros coups de cœur de l'année, c'est à la fois une claque cinématographique folle et surtout ça fait du bien dans un paysage de blockbuster américain assez sclérosé.
Et puis surtout, Lana Wachowski a réussi à ancrer un concept dans un truc extrêmement réaliste. Pour moi, elle fait le travail de Nolan avec la trilogie Batman. Elle a réussi à ancrer, on ne pourra rien en dire parce que sinon on spoil, mais par exemple, il est dit clairement le nom des producteurs dans le film, Warner, ainsi que le patron d'un réseau social très connu. Mais comment ont-ils pu avoir l'extrême idée oui. Bon, alors on peut le dire, Mark Zuckerberg se fait flinguer nommément. C'est-à-dire qu'il faut à la fois avoir un pouvoir extraordinaire pour pouvoir le faire et mettre en abîme son propre producteur Warner au sein d'un film dans lequel on ancre ça dans une réalité mais dont on ne dira rien.
Mais c'est ça, il faut s'inscrire dans 2021 comme l'autre s'inscrivait à l'époque dans 99. On en a fini avec les cabines téléphoniques, maintenant on passe à travers les miroirs et on découvre une nouvelle réalité. Matrix 4, c'est un bijou.
Il y a juste un petit bémol à apporter, on retrouve un personnage, je ne dirai pas lequel, qui arrive avec des insultes et franchement
non, là
on croirait sur Broadway dans le Roi Lion.
C'est formidable.
Allez le voir, vous allez vous faire votre propre avis. La Croisade, c'est le troisième film de Louis Garrel et pour ça, il est accompagné de sa femme dans la vie, Laetitia Casta, qui est sa femme dans le film. C'est entre le drame et la comédie. En fait, c'est l'histoire d'un couple qui se rend compte que leur fils, Joseph, a vendu tous les objets de valeur pour financer un projet avec des centaines d'autres enfants dans le monde. Le but, sauver la planète.
Quoi, Joseph, t'as pas touché mes montres ?
Oh là là. Mais t'es malade, c'est des montres de collection !
Vous êtes combien à avoir fait ça ?
On est 850.
Pour tout ?
Bah si, si.
Mais pour faire quoi ? Ils viennent pour faire quoi ?
Pour sauver la planète, papa.
Bon, et c'est quoi cette idée ?
En fait, on va faire une très très grande mer en Afrique.
Je me demande si t'es pas jaloux.
Bah, de qui ?
De notre fils, de son courage.
Je te remercie.
De rien.
Franck Vallière.
Alors ça dure 1h07, c'est un petit bonheur exquis de voir Garrel en pater complètement dépassé, qui ne comprend pas que son fils favorise l'essor d'une bienveillance vis-à-vis de la planète, quand lui s'efforce de subvenir à son superflu quotidien, à toute cette richesse qu'on continue de consommer à droite et à gauche, alors que les enfants veulent juste pouvoir vivre sur une planète. C'est vraiment c'est très rigolo. C'est à mourir de rire à bien des égards, et puis le plaisir de retrouver la même équipe que dans le film de Garrel précédemment.
Ouais, l'homme fidèle. Et c'est le dernier scénario de Jean-Claude Carrière également.
Ah oui, c'est vrai, bah oui, bien sûr.
Et la dernière sortie, c'est un thriller porté par l'excellente Virginie Efira, Madeleine Collins. Virginie Efira qui mène une double vie entre deux familles, qui est complètement dépendante de ses mensonges, de ses fausses identités, avec un suspense qui nous tient jusqu'au bout.
Chaque fois, c'est la même histoire. Elle est joyeuse quand tu arrives et bouleversée quand tu repars. C'est très dur pour elle.
Tu sais, mon cœur, je vais travailler.
Je veux pas.
Ça s'est bien passé, t'es lituanien ?
Oui, ça va.
Ton fils a appelé.
Je veux dire notre fils.
Ah non, quand il m'énerve, c'est que le tien.
Qu'est-ce que vous faites là ?
Bah, j'aurais la même question, chère Margot. Je ne savais pas que vous connaissiez
Pierre
Paul.
Judith, je m'appelle Judith.
On ne peut pas continuer comme ça. Tu mens en permanence à tout le monde. Tu me fais peur.
Sophie Grèche.
Oui, le film est vraiment porté par Virginie Efira qui nous livre une performance, mais absolument merveilleuse. C'est-à-dire qu'elle, c'est elle qui porte ce thriller un peu bourgeois, mais en même temps très psychologique, basé pour moi sur la scène d'introduction qui est un plan séquence dans une cabine d'essayage qui en fait va nous dire, nous spectateurs, je vous mets un mystère devant les yeux et vous allez devoir le résoudre. Et elle, on va la voir se débattre sans que nous ayons toutes les clés du mystère. Et donc ça fait un film tendu et donc parfaitement découpé, interprété, monté. C'est très efficace et très beau.
Et les placements de caméra sont exceptionnels, je trouve. On passe tour à tour de celle qui ment et sur des scènes de mensonges complètement sur ceux qui l'écoutent, de manière à semer un doute pour est-ce qu'elle est crédible ou pas. Moi, j'ai trouvé ça brillant, hein, vraiment.
Et 2022, à mon avis, sera l'année Virginie et Fira. Bon, mais ce n'est que mon avis. Pour terminer, parce qu'il n'est pas encore trop tard, voici quelques idées de cadeaux de Noël pour les retardataires. Déjà, pour tous les fans de cinéma, impossible de passer à côté de ce livre. C'est La Rétrospective de Ridley Scott. C'est un véritable rendez-vous avec le cinéaste britannique grâce aux nombreux entretiens qu'il a pu accorder à l'auteur de ce livre. Alors, de Blade Runner à Gladiator jusqu'au Dernier Duel, toute sa filmographie est passée en revue et c'est vraiment un excellent livre. Et je voulais aussi vous parler d'un autre livre, Cinemaps, de sublimes illustrations de films cultes comme Pulp Fiction, Shining ou encore Indiana Jones, accompagné d'analyses assez uniques. Et ça aussi, c'est une belle idée de cadeau qui pourrait plaire à tous les cinéphiles.
Est-ce que je peux faire une recommandation de cadeau aussi ?
Bien sûr.
Le livre part dans le cinéma. Et bien évidemment, le livre part dans le cinéma.
Il m'enlève les mots de la bouche.
Allez acheter le livre part dans le cinéma, histoire de découvrir 100 films que vous ne connaissez pas, mais que vous allez adorer. Voilà.
C'est Victor et toute son équipe qui vous parlent de films méconnus.
Petit moment d'autopromo, ouais, ça fait toujours du bien.
Tu as tout à fait raison. Voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'est déjà la fin de ce club. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On reviendra sur les films qui ont marqué l'année, mais aussi sur ceux attendus en 2022. Et je recevrai l'actrice dont on vient de parler, Virginie Efira. Alors si Franck et Victor n'ont pas fait une indigestion de bûche, d'ici là, ils devraient être à mes côtés.
Oh, probablement, probablement.
Moi, ça fait 15 jours que je suis à la Clémentine, et allô.
Moi, je commence tout de suite à rouler sous la table.
Allez, je vous souhaite encore une fois un très joyeux Noël. Merci beaucoup à Sophie Grèche d'avoir été avec nous. Un très bon réveillon. N'oubliez pas d'aller au cinéma et restez avec nous à l'écoute d'Europe 1.
Clap sur Europe 1. Laurie Choleva.